Chers frères et sœurs, bonjour. Lisons dans la parole de Dieu, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, les versets 41 à 46. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois « Retourne ». À la septième fois, il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit « Monte » et dit à Achab « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Après la grande démonstration de la puissance de l'Éternel par la venue miraculeuse et surnaturelle du feu de l'Éternel sur l'autel et sur l'Holocauste, Élie va être l'instrument entre les mains de Dieu pour mettre fin au châtiment infligé au peuple. 3 années de sécheresse avec leur cortège de misère. Notons que la pluie n'arrive qu'après la mort des prophètes de Baal. Ceux-ci ne pourront donc pas revendiquer la pluie, ce qu'ils n'auraient certainement pas manqué de faire. Remarquez d'ailleurs que notre récit débute par le petit mot « et », la petite conjonction de coordination dont j'ai déjà parlé dans mon dernier message. Et ici encore, un lien étroit unit ce qui s'est passé et la pluie à venir. Le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a témoigné de son désir de suivre à nouveau l'Éternel en tuant les prophètes de Baal. Dieu va donc envoyer sa bénédiction sur le pays. La pluie est donnée aux enfants d'Israël à la suite de l'œuvre de Dieu pour eux et en eux. Et c'est une leçon que nous ne devrions jamais oublier. Plusieurs points importants méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le message adressé au roi Achab. Monte, mange et bois. Cette invitation d'Élie au roi prouve que celui-ci était descendu avec le peuple. Il devait maintenant remonter pour retrouver dans sa tente les provisions préparées pour le repas, un repas qui avait été certainement oublié au cours d'une journée aussi extraordinaire qu'inoubliable. Le roi faites immédiatement ce que demande Élie. Achab monta pour manger et pour boire. De quelle utilité aurait été le roi dans un tel moment d'intercession ou même de jeûne? Et même s'il avait bredouillé quelques mots, sa prière n'aurait pas pesé lourd dans la balance de Dieu. Élie, comme souvent, pour ne pas dire toujours, est seul. Ce n'est pas le nombre d'intercesseurs qui compte en premier, mais leur droiture. Dieu écoute ceux qui lui sont attachés, ceux qui font sa volonté. Remarquons ensuite ce que j'appellerais la perception prophétique d'Élie. Il dit « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». Le texte hébreu parle littéralement de « la voix du grondement de l'averse ». Il se prépare donc, dans les sphères célestes, une chose très forte, une intervention de l'Éternel à sa dimension et selon ses richesses. Cependant, à cet instant précis, le ciel est toujours désespérément bleu, pur, sans aucun nuage, même le plus minuscule soit-il. Comment le prophète peut-il entendre un tel grondement? Certainement pas avec les oreilles du corps, mais avec celles de l'esprit. Il vit en pleine communion avec Dieu, avec ses voix et avec ses œuvres. Il nous faut maintenant considérer avec attention la prière du prophète. Et tout d'abord, son attitude physique. Lui aussi monte. Il est dit « Élie monta au sommet du Carmel ». Mais ce n'est pas pour manger et pour boire, mais pour prier. Est-ce vraiment nécessaire? N'avait-il pas perçu surnaturellement la voix du grondement de l'averse? La pluie n'allait-elle pas venir automatiquement? Je mets le mot « automatiquement » entre guillemets. Mes amis, c'est dans ce verset précisément que se cache le secret de toutes les grandes bénédictions, de toutes les grandes victoires, de tous les réveils authentiques. Mais c'est là aussi que nous découvrons l'explication de nos échecs, de nos défaites, de notre médiocrité et de l'emprise de l'ennemi sur la vie de bon nombre de chrétiens et d'églises. Trop de croyants pensent qu'il suffit d'avoir perçu la voix du grondement de l'averse pour que la pluie vienne. Je veux dire ceci. Ils ont reçu une promesse de la part de Dieu, une parole prophétique, une vision, et ils sont alors convaincus qu'ils peuvent attendre la bénédiction divine, le miracle, sans rien faire. Ils n'ont pas compris le fonctionnement des mondes spirituels. Je dis des mondes, car nous avons besoin de connaître et de discerner l'activité du monde divin, céleste, angélique et celle des sphères démoniaques. Je suis pleinement persuadé qu'il y a des choses que Dieu voulait faire. Il les avait même annoncées, promises, et elles ne se sont jamais produites, elles ne sont jamais arrivées. En d'autres termes, la volonté de Dieu ne s'est pas faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Le peuple de Dieu, à qui la promesse avait été faite, n'a pas compris qu'il fallait alors prier, beaucoup prier, et prier jusqu'à l'exaucement. L'Église, à qui la promesse avait été faite, n'a pas pris le chemin de l'intercession ardente. Le foyer, le croyant, n'ont pas été les intercesseurs que Dieu attendait, et rien n'a pu se faire. Des églises passent ainsi à côté d'un grand plan de Dieu pour elles-mêmes, pour leur ville, pour leur région, pour leur pays, faute d'une lutte incessante dans la prière. Elle préfère la religion d'Akab, monter pour manger et pour boire. Si la perception du grondement de l'averse avait suffi, si Élie avait pu se contenter de la révélation personnelle du plan divin sans rien faire, dites-moi alors pourquoi il s'est engagé dans un combat aussi intense, aussi soutenu, aussi persévérant dans la prière. Je sais que très peu de ceux qui m'écoutent comprendront cet enseignement. Mais je vous en supplie, ouvrez votre Bible, sondez-la, ouvrez votre cœur à la révélation qu'elle vous apporte, et vous allez arriver à la conclusion qu'entre la promesse d'une grande bénédiction, d'une grande visitation divine, et la réalisation du plan divin, se dressent les oppositions multiples de l'enfer, des murailles d'incrédulité, de raisonnement, d'impiété des hommes, tout ce qui s'élève entre la volonté de Dieu dans le ciel et la manifestation de cette volonté sur la terre doit être brisé et anéanti. Et la voie de Dieu pour y parvenir, c'est la prière. Les hommes et les femmes de Dieu dans l'Écriture l'ont compris. Les apôtres l'ont compris. Les premiers chrétiens l'ont compris. Et j'ose vous le dire, Jésus, dans les jours de sa chair, avait pris ce chemin-là lui aussi. Vous me direz, mais ne voyait-il pas faire les œuvres au Père Céleste? Ne savait-il pas que le Père avait remis toutes choses entre ses mains? Ne pouvait-il pas se contenter de cela? Dites-moi alors pourquoi ces 40 jours de jeûne au désert, ces nuits de prière, ces moments d'intercession très tôt le matin, très tard le soir, et finalement le combat horrible de Gethsémané? Je crains que nous soyons devenus les clients du fast-food évangélique. Nous avons perdu la vision du combat qui se livre entre les armées célestes et celles de Satan. Dans un contexte particulier sur lequel je ne prendrai pas le temps de m'étendre, le prophète Daniel a passé 3 semaines dans l'humiliation, le deuil spirituel et la prière. Au terme de ces 3 semaines, un être céleste lui a dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Livre de Daniel, chapitre 10, les versets 12 et 13. Les paroles de Daniel avaient été entendues dès le premier jour de son jeûne. Mais pendant 21 jours, et je précise que c'est le temps correspondant aux 3 semaines de jeûne et de prière de Daniel, l'ange a été obligé de combattre une puissance hostile, la puissance de celui qui est appelé ici le chef du royaume de Perse. De toute évidence, il s'agit d'un personnage d'ordre spirituel et invisible. Il y avait un combat dans les sphères spirituelles invisibles et qui nécessitait sur la terre un combat intense dans la prière. Dans quelle position le prophète Élie va-t-il intercéder? Se penchant contre terre, nous dit la parole de Dieu, il mit son visage entre ses genoux. C'est la position du plus profond recueillement. L'homme de Dieu se concentre ici en son Dieu. Le texte hébreu dit « il se courba à terre ». Il faut de la souplesse pour mettre la tête entre les genoux. Il y a des années en arrière, ayant lu pour la énième fois ce texte de la parole de Dieu, dans mon bureau, j'ai essayé de prendre la posture d'Élie. Je n'y suis jamais arrivé. Essayez, ce n'est pas facile, vous verrez. Il y a tellement de raideur qui nous empêche de nous courber vraiment devant Dieu. Je parle ici dans le domaine spirituel. La prière qui montait constamment vers Dieu avant que le puissant réveil du Pays de Galles n'éclate était celle-ci « Courbe l'Église et sauve le monde ». La prière qui réclame la pluie abondante et qui est exaucée est celle qui jaillit d'hommes et de femmes réellement courbés devant Dieu. Permettons au Seigneur de triompher de toutes nos raideurs spirituelles. L'enjeu est de taille. La tête entre les genoux. Les genoux évoquent la prière. La tête symbolise souvent les pensées, les raisonnements, les facultés intellectuelles. Il est un moment particulier que Dieu attend. C'est celui où nous accepterons d'encadrer nos raisonnements, nos pensées par la prière. Symboliquement, mettre la tête entre nos genoux. Le moment où toute logique, toute analyse, tout contrôle intellectuel seront inondés de la communion avec Dieu, de la présence de Dieu, pour que lui en ait le contrôle et qu'il dirige tout comme bon lui semble. Si la croix a été plantée au Golgotha, le lieu du crâne, ce n'est pas sans raison. La folie de Dieu doit triompher de la sagesse de l'homme. La parole de Dieu décrit avec force la persévérance d'Élie dans son intercession. Il dit à son serviteur « Monte, regarde du côté de la mer ». Le serviteur monta, il regarda et il dit « Il n'y a rien ». Élie dit 7 fois « Retourne ». À la 7e fois, il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme ». On ignore tout de ce serviteur dont il n'est fait mention qu'ici et qui est utilisé comme simple courrier. Toute l'âme du prophète est dans cette prière intense et dans l'attente de l'exaucement. Une prière que ne manquera pas de rappeler Jacques dans son épître. La prière fervente du juste a une grande efficacité, écrit-il. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Chapitre 5, versets 16 à 18. Ne méprisons jamais un petit nuage, gage de l'exaucement qui vient. Un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme, n'est-ce pas quelque chose d'insignifiant? Non. Surtout pas lorsque l'on prie pour que les nuages arrivent et que l'on n'en a pas vu un seul depuis 3 années et demie. Nous devons apprendre que la grâce divine se manifeste souvent par des choses insignifiantes. Rappelez-vous, la ration de nourriture apportée matin et soir par les corbeaux au torrent de Kérit, la farine et l'huile de la veuve à Sarepta. Mais d'autre part, ici, le prophète va comprendre que le petit nuage est petit en raison de la distance. En fait, la bénédiction de Dieu est en marche et rien ne va pouvoir l'arrêter. J'attire maintenant votre attention sur le message d'Élie adressé à son serviteur. Tandis que le prophète prie, son serviteur observe au loin. Et je lis à nouveau ce passage de l'Écriture. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Achab, « Attelle et descends. » afin que la pluie ne t'arrête pas. Le serviteur doit se tenir à un endroit de la montagne d'où il aura une vue libre sur la mer vers l'occident d'où doit venir la pluie demandée. Lui aussi, ce serviteur, doit monter. Achab monta pour manger et pour boire, Élie monta pour prier et son serviteur dut monter pour scruter la mer et le ciel et voir si la prière de son maître recevrait un exaucement. À sept reprises, le serviteur reçoit l'ordre de retourner et de scruter l'horizon. Jésus nous a enseigné qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je ne pense pas qu'il y ait dans ce récit la mention du chiffre 7 par hasard. Il est ici le chiffre de la totalité et le chiffre de l'accomplissement divin. Par ailleurs, notre persévérance et notre patience doivent être parfaites. Jacques déclare « L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Chapitre 1er, les versets 3 et 4. Une dernière pensée concernant l'exaucement de la prière du prophète. L'attente de l'exaucement est parfois longue. Mais lorsque Dieu agit, tout s'accélère merveilleusement. Écoutez, en peu d'instants, nous dit la Bible, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. C'est la sortie d'un long tunnel, c'est la fin d'une crise, c'est la restauration après le chaos. Et je conclus avec le dernier message adressé à Achab dans cette circonstance. Le serviteur d'Élie est envoyé auprès du roi pour lui dire « Attelle et descends pour que l'averse ne te bloque pas. » Quand la pluie survient après une si longue sécheresse, elle se précipite par torrent. Elle pouvait aussi rendre le retour d'Achab impossible jusqu'à son domaine de Jizréel sur des routes rendues impraticables par l'orage. Donc, le conseil d'Élie marque la sollicitude de la part de l'Éternel pour un roi tel qu'Achab. La dernière image d'Élie dans ce récit est saisissante. « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Après avoir été un instrument dans les mains de Dieu pour une mission aussi extraordinaire que celle du Carmel, Élie fait preuve ici d'une grande humilité. Il va faire pour Akab le service d'un humble coureur, tel qu'en ont toujours, en Orient d'ailleurs, les riches devant leurs chariots. La force de l'Éternel, et il en avait bien besoin après tous ces événements, le soutien dans cette course extraordinaire devant Akab. La distance entre le mont Carmel et Jizréel était importante, entre 20 et 30 kilomètres. Mais l'homme de Dieu fut investi de force particulière. Rappelez-vous, la Bible dit, et je termine avec ce verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Amen.